RFI Pure Radio. 8h30 en temps universel, 10h30 à Paris. Merci d'être avec nous. La dernière édition d'Afrique Matin. Bonjour Arthur Ponchelet.
Bonjour Juan et bonjour à vous qui nous écoutez. À la une ce matin, des images et des questions. Des militaires maliens prisonniers des rebelles du Front de Libération de l'Azawad apparaissent dans une vidéo. Le FLA confirme avoir tourné ces images il y a quelques jours, mais nie être à l'origine de leur diffusion. Arrêté alors qu'il faisait ses courses à Ouagadougou, au Burkina Faso, Abdulaziz Congo, demi-frère du Moro Naba, a été interpellé mercredi. Pas de raison officielle avancée à ce stade. Dans ce journal aussi, la RDC et l'avant-projet d'accord de paix qui doit être dévoilé aujourd'hui. Et puis, les États-Unis s'impliquent à nouveau dans la crise politique au Soudan du Sud. L'ambassadeur américain a appelé hier à la libération du vice-président Riek Machar, toujours sous résidence surveillée. C'est une vidéo qui circule beaucoup sur les réseaux sociaux au Mali depuis mardi soir. On y voit une vingtaine de soldats maliens et deux mercenaires russes de Wagner aux mains du FLA, le Front de Libération de l'Azawad. Ces soldats ont été capturés entre septembre 2023 et juillet 2024 lors de différents combats, notamment ceux de Tinzawaten en juillet dernier. David Baché, le FLA, confirme avoir tourné cette vidéo, mais assure ne pas être à l'origine de sa diffusion.
Regroupés devant une bâche orange dans un désert rocheux, les 21 militaires déclinent leurs noms, matricules et affectations. Les deux mercenaires de Wagner, également détenus, ne font pas partie du groupe. Le FLA confirme à RFI avoir tourné cette vidéo tout récemment dans un cadre très particulier. Un espion de Bamako aurait proposé à des combattants du FLA de l'argent pour organiser l'évasion des militaires. Les rebelles lui auraient transmis cette vidéo comme preuve de vie avant de lui tendre un guet-apens et de le capturer. Quant à la vidéo des soldats, elle n'avait selon les rebelles, pas vocation à être diffusée. Des portes avaient été ouvertes à ceux qui peuvent obtenir leur libération, confirme à demi-mot une source sécuritaire malienne qui poursuit « aucune libération n'est gratuite ». Une autre source sécuritaire malienne affirme avoir reçu la vidéo plusieurs jours avant sa diffusion. Début avril, un commandant du FLA a été arrêté au Niger. Cette vidéo pourrait-elle être liée pour un éventuel échange ? En aucun cas, cela n'a rien à voir, assure un dirigeant rebelle. Des dynamiques sont déclenchées pour la libération de prisonniers, réagit de son côté une source sécuritaire malienne sans préciser. En tout état de cause, cette vidéo rassurera les familles des militaires détenus à l'affût de la moindre nouvelle.
David Baché, on leur a promis des bourses d'études. Ils se retrouvent sur le front dans l'est de l'Ukraine. Des ressortissants togolais sont actuellement détenus en Ukraine, d'après le ministère togolais des Affaires étrangères. Il s'agit principalement de jeunes étudiants. Il y a quelques semaines déjà, le mouvement Martin Luther King dénonçait la situation d'un jeune Togolais emprisonné en Ukraine. Les autorités de Lomé appellent les étudiants à la plus grande vigilance. Au Burkina Faso, l'un des parents du Moro Naba, le roi des Mossi, a été interpellé mercredi. Frédéric Garas, là, s'est passé à Ouagadougou, dans des circonstances particulières, mais surtout dans un climat de tension militaire.
C'est pendant qu'il faisait ses courses dans son quartier à Ouagadougou qu'Abdulaziz Congo a été arrêté par des individus se présentant comme membres des forces de sécurité. Dans un premier temps, conduit chez lui, le demi-frère du Moro Naba, le roi des Mossi, a ensuite été embarqué pour une destination inconnue. Pas de raison officielle à cette interpellation, si ce n'est qu'en septembre dernier, Abdulaziz Congo avait sur le site lefaso.net donné une interview où il émettait des réserves sur la conduite des affaires du pays. Il avait notamment rappelé que les autorités coutumières et religieuses du Faso avaient servi de caution entre les putschistes Damiba et Traoré en octobre 2022. Au regard de l'accord conclu, le capitaine Traoré devait veiller notamment à la réconciliation nationale et à la cohésion au sein des forces de sécurité. Une cohésion qui, justement, semble mise à mal depuis plusieurs semaines, à tel point qu'il y a peu, le Moro Naba a reçu une demande de la part du capitaine Traoré pour jouer les médiateurs dans les rangs fébriles de l'armée. Le roi des Mossi ayant décliné cette proposition, certains y voient la raison de la disparition de son frère.
Frédéric Gara, la politique en Côte d'Ivoire, et Guillaume Soro qui réagit à son tour à la radiation de TJ Ngwenyen Thiam de la liste électorale, l'ancien premier ministre condamné à la prison à vie, parle de radiation arbitraire, ce sont ses mots. De son côté, le gouvernement se félicite d'avoir construit un état de droit et assure que les élections seront apaisées, démocratiques et transparentes. À l'écoute de RFI 8h35, en temps universel, l'actualité en RDC, c'est à Washington qu'elle va s'écrire aujourd'hui, puisque c'est dans les prochaines heures que les diplomaties congolaises et rwandaises doivent présenter leur avant-projet d'accord de paix. Rien ne sera signé aujourd'hui, précise une source américaine à RFI, des négociations diplomatiques qui suscitent des réactions en RDC. Une quarantaine de personnalités, dont Denis Mukwege, signe une lettre ouverte au président Tshisekedi. Il dénonce un processus opaque et mettent en garde contre tout bradage des ressources congolaises. Le professeur Alphonse Maindo est l'un des signataires.
Il faut bien que la paix revienne au Congo, mais pas à n'importe quelle condition. Il faut véritablement s'assurer qu'il y a un processus de transparence pour que nous utilisions nos ressources pour notre bien-être, mais également que cela puisse se faire avec l'idée que nous, le peuple d'aujourd'hui, nous n'allons pas brader les ressources pour priver les générations de demain de ces ressources-là. Ça, c'est le message principal que nous voudrions lui dire, et qu'il fasse ça dans la transparence, dans le respect de la loi. Il y a une alternative simple. Vous savez qu'il y a une résolution des Nations Unies qui détermine les choses à faire. Ce qu'on est en train de négocier maintenant, là, se trouve déjà là-dedans. Et donc, il faut simplement faire appliquer cette résolution. On aura une bonne partie des choses qu'on négocie maintenant qui sera déjà réglée. Et en plus de cela, concrètement, il faut qu'on puisse saisir les outils qu'on a. Il y a eu un rapport mapping. Donc, on peut faire une juste transitionnelle pour arrêter les cycles de violence. Si on poursuit les criminels, ça va décourager les gens à reprendre les armes.
Alphonse Maindo avec Passion Ligaudi. Autre déclaration, ce matin, celle de Martin Fayoulou, Moïse Katumbi, Délice Essanga et Joseph Kabila. Dans un texte qu'ils ont tous signé, les quatre opposants appellent un dialogue interne pour mettre fin à la guerre dans l'Est. Ils estiment aussi que les négociations de Doha ne constituent pas, je cite, une base suffisante pour une solution définitive et durable. Fin de citation. Des tirs d'artillerie ont visé le palais présidentiel soudanais. C'est ce que dit ce matin l'armée, qui accuse les paramilitaires d'en être à l'origine. C'est la deuxième frappe des forces de soutien rapide sur Khartoum en une semaine, la capitale soudanaise, où l'on poursuit ce matin notre série de reportages grand format. Ce matin, Gaël Alex nous parle de l'accès à l'eau et à l'eau potable devenue très difficile. Certains doivent marcher jusqu'à 12 km pour trouver un puits. Reportage à lire et à écouter, et en images aussi sur notre site rfi.fr. Le Soudan du Sud, lui, est toujours face à la crise politique, crise née, je vous le rappelle, de combats dans le nord entre les forces fidèles au président, Salva Kiir d'un côté, et une milice proche du vice-président, Riek Machar, de l'autre. Il est d'ailleurs toujours en détention, placé en résidence surveillée. Et à nouveau, les États-Unis s'en mêlent. Hier, l'ambassadeur américain s'est exprimé, Florence Mieto. Michael Adler a rencontré un haut conseiller du président et il appelle à la libération de toutes les figures de l'opposition.
L'ambassadeur américain Michael Adler, la soixantaine, a souligné qu'un Sud-Soudanais du même âge que lui a connu quatre guerres civiles au cours de sa vie. Inquiet de voir naître un nouveau conflit, il a exprimé son opposition à toute tentative d'évincer Riek Machar de l'accord de paix.
Nous soutenons fortement ceux qui pourraient mettre en œuvre les engagements de paix. Nous ne pouvons pas accepter que des engagements de paix soient mis en œuvre alors que l'un des signataires de l'accord de paix est en résidence surveillée. Nous appelons à la libération de ceux qui sont en détention. Nous appelons à une reprise du dialogue entre les dirigeants reconnus de toutes les parties du gouvernement de transition pour faire avancer la paix.
Michael Adler a également évoqué l'éventualité d'une fermeture de l'ambassade américaine au Soudan du Sud, éventualité mentionnée dans la presse américaine le mois dernier.
Il n'y a eu aucune décision de fermer quelque ambassade que ce soit, où que ce soit. L'ambassade américaine au Soudan du Sud reste fonctionnelle, même si nous avons beaucoup réduit le nombre de nos employés américains du fait d'inquiétudes liées à la situation sécuritaire.
Des inquiétudes qui alimentent la frustration de Washington. L'administration Trump continue d'ailleurs de priver les Sud-Soudanais de séjour aux États-Unis, et ce, malgré les efforts de coopération de Djouba en matière d'immigration. Florence Mietto, Djouba, RFI.
La liberté de la presse, de plus en plus menacée dans le monde, c'est ce que dit ce matin Reporters sans frontières. L'organisation publie son baromètre annuel ce matin sur notre antenne. Anne Bokandé, la directrice éditoriale de RSF, s'inquiète de la situation sur le continent africain, au Sahel, mais aussi dans l'est de la RDC, où la guerre a contraint de nombreux journalistes à fuir. Et puis ça y est, la cheminée a été installée sur le toit de la chapelle Sixtine. Le Vatican se prépare au conclave pour élire le prochain pape. C'est dans 5 jours, très exactement, sur les 133 cardinaux enfermés à double tour sous les peintures de Michel-Ange. 18 Africains seront de la partie. Qui sont-ils? Quel est leur poids? Et certains d'entre eux ont-ils des chances d'être élus? On vous les présente jusqu'au conclave le 7 mai. Ce matin, le portrait du Guinéen et très conservateur Robert Sarah est à lire sur RFI.fr. Voilà pour le journal et je vous laisse avec Juan.